au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto360.
Auto360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Bienvenue à Auto360, bien content de vous retrouver en pleine forme cette fois-ci. Et nous avons une émission fort chargée. Marc et moi arrivons directement de Los Angeles, c'était le salon de l'auto de Los Angeles. Alors nous allons vous en parler en long et en large tout au long de l'émission. Beaucoup d'informations, beaucoup de dévoilements, primeur mondiale, primeur internationale. Bref, il y en a eu, primeur nord-américaine également. On va faire le tour de tout ça au cours de l'émission et ça va vous permettre aussi de nous poser des questions concernant le salon de l'auto parce que d'entrée de jeu, je vais vous poser tout de suite la question du jour. Et la question du jour concerne les salons de l'auto parce que le salon de Los Angeles, même si on est encore en 2017, là, je le considère comme le premier salon de l'année. Donc, comme c'est le premier salon de l'année, va suivre les autres salons. Il y a aussi, évidemment, le salon de l'auto de Détroit, donc dès début janvier. Va être suivi par le salon de l'auto de Montréal. Il va y avoir le salon de l'auto de Québec. Il va y avoir Toronto. Et ça finit pour les salons nord-américains d'importance avec celui de New York. Quelque part là-dedans, il y a aussi celui de Chicago, mais un petit peu moins important, celui de Chicago, commence à descendre passablement. On garde surtout les camions pour le salon de l'auto de Chicago. Et évidemment, je fais abstraction des salons européens parce qu'il y a moins de modèles qui nous concernent, même si de plus en plus, c'est des modèles mondiaux qu'on lance. Il reste qu'on va se contenter pour les salons nord-américains. Alors, la question, c'est vous attendez à quoi des salons? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous espérez voir des surprises, comme une voiture électrique de 500 km à 25 000 $? Est-ce que vous attendez à pas grand-chose parce que les constructeurs font beaucoup de blabla puis finalement, ils sortent pas énormément de nouveautés ou de nouveautés marquantes? Puis on va en parler avec le Salon de l'Auto de Los Angeles, vous allez voir. Je vais vous faire la liste tout à l'heure des véhicules qui ont été dévoilés et vous ferez le calcul des véhicules électriques, hybrides ou branchables. Il me semble que la proportion n'est pas juste avec ce qu'on nous annonce depuis fort longtemps. Alors, c'est quand même assez intéressant. D'entrée de jeu, Philippe Lagu est là. Salut Philippe.
Salut Daniel.
Comment ça va?
Ça va très, très bien. Pendant que vous autres, vous êtes allés au salon du VUS, au salon du véhicule utilitaire sport, moi ici, j'ai fait des recherches sur un véhicule qui me fascine depuis ma plus tendre enfance. Et quand je dis me fascine, j'exagère pas, c'est vraiment une voiture qui exerçait littéralement une fascination sur moi quand j'étais enfant. Puis c'est la Lincoln Continental, hein, qui quand ouais. même, il y a 40, 50 ans, c'était une voiture qui était à son apogée et qui symbolisait qui incarnait vraiment le prestige américain. J'ai découvert plein de choses intéressantes et j'ai très hâte de vous parler de ça. Puis toi et moi, en plus, on a tous les deux conduit la Lincoln Continental, qu'on pourrait dire 2.0, celle du 21e siècle. Alors, on pourra conclure avec
Est-ce
ça.
Est-ce qu'elle est à la hauteur de ces...
On brûlera pas le punch tout de suite. On va répondre tantôt. On va répondre tantôt. Puis en attendant, j'invite ceux et celles qui nous écoutent à aller sur ma page Facebook où j'ai mis des photos des anciennes Lincoln Continental, ainsi que des photos du modèle actuel. Et il y a aussi du matériel sur philippelagu.com. J'ai déjà fait des textes sur certaines anciennes Continentales. Alors, tous les liens sont là.
Philippe, tu as parlé de salon du VUS.
Ben, c'était ça. Los Angeles, sérieusement, là.
Ben voyons, c'est la Californie. La Californie, c'est là que les normes anti-pollution sont les plus sévères. C'est là qu'il y a le plus de voitures électriques. C'est là qu'il y a le plus de voitures hybrides.
C'est tout le contraste du salon de Los Angeles. C'est aussi le là où ils se vendent probablement le plus de Ferrari puis de Lamborghini. Puis ils n'étaient même pas au salon. Alors, il y a des contradictions avec le salon de Los Angeles. J'aimerais ça que vous me parliez aussi des absents parce qu'il y en avait quand même pas mal.
Oui, les constructeurs haut de gamme et exotiques, bref.
Des constructeurs haut de gamme qui sont pas à Los Angeles, c'est quand même, ça aurait été, il y a 10 ans, à peine, ça aurait été
inconcevable.
Alors, est-ce que les salons sont encore pertinents? Je vous laisse là-dessus.
C'est ça. La raison de la question. Merci Philippe, on se parle tantôt.
Salut.
Salut Marc.
Salut mon cher.
Comment ça va?
Ça va, on se remet tranquillement de notre retour, mon cher.
Effectivement, hein? Hier soir, on est de retour, mais en pleine forme, avec un beau salon. D'abord, c'est le fun d'avoir un salon là où il fait chaud, ça c'est agréable. Los Angeles, on s'attend toujours à toutes sortes d'affaires avec le salon de l'auto de Los Angeles. On veut avoir des grosses nouveautés. On va commencer, si tu veux, avec le Green Car of the Year.
Oui, mais avant, je veux quand même préciser quelque chose pour satisfaire Philippe aussi. Tesla était sur place avec sa Model 3. Elle existe. J'y ai touché. J'ai même pris une photo. Donc, la Model 3 existe. Bon, OK, le kiosque de Tesla était à peu près grand comme mon salon, mais il y avait une seule voiture et à peu près personne pour répondre aux questions. Mais la voiture était là. La Model 3 existe, on l'a vu.
Il y avait le Model X, puis il y avait le Model S plus loin, mais l'espace majeur du kiosque de Tesla, c'était pour quoi? C'était pour vendre les toits solaires.
Exactement.
Donc, on avait littéralement construit une genre de maison, et c'était les toits solaires qu'on voulait mettre en évidence pour Tesla. Assez spécial.
Ça donne Marc, une bonne idée de où on s'en va.
Oui, j'allais dire salon. Alors, salon de l'auto de Los Angeles, beaucoup, beaucoup de nouveautés ont été lancées là-bas. Bon, on a volé le punch, évidemment, avec Philippe, parce que au salon de Los Angeles, majoritairement, des sports utilitaires. Et on nous dit, bien, c'est le marché qui est grandissant. Alors, évidemment, on a lancé énormément de sports utilitaires. Mais, évidemment, le salon d'entrée de jeu, c'est toujours la voiture verte de l'année. Hein, dans les années passées, les deux dernières années, Volt, GM avait volé la vedette avec Volt et Bolt. C'était les deux gagnants des voitures vertes de l'année. Cette année, on voulait avoir encore savoir qui allait gagner parce qu'il y avait quand même plusieurs véhicules en nomination, là, les Honda Accord de ce monde. Il y en avait énormément, des véhicules qui ont été présentés. Mais l'idée était pas pipée d'avance, mais pas loin. C'était soit la nouvelle Nissan Leaf, soit la Honda Clarity. Mais Honda Clarity, évidemment, puisqu'ils font miroiter un genre de trio, parce qu'elle est disponible en plusieurs versions, autant l'hydrogène que 100% électrique, que genre hybride. Alors, c'est la Clarity qui a gagné la voiture verte de l'année.
Effectivement, c'est la seule voiture qui, pour le moment, offre les trois options. Donc, une voiture qui est 100% électrique branchable, une voiture qui est hybride branchable et potentiellement une voiture à hydrogène. Donc, la Clarity Fuel Cell qui va arriver. Et c'est pas une légende. Elle existe. Elle a été vue. On pouvait conduire, en fait, des prototypes au cours des dernières années. Ouais. Et la Clarity, ben dans deux semaines à peine, on va aller l'essayer aussi dans sa première déclinaison qui va arriver chez nous. Donc, je pense que c'est un bon choix parce que, justement, ça offre toutes les propositions et que ça a l'air moins d'une soucoupe volante que la plupart des voitures, je dirais, écologiques qu'on nous a proposées, là, les voitures électriques et tout ça qui ont l'air absolument incroyablement trop modernes. La Clarity, c'est quand même une belle voiture que j'ai très hâte d'essayer.
Alors, on va procéder un peu différemment cette fois-ci pour les questions. Si vous voulez nous poser des questions, donc, vous pouvez me parler de la période des salons de l'auto là qui s'amorce. Vous vous attendez à quoi de ces salons? Qu'est-ce que vous aimeriez que les constructeurs offre comme produit lors de ces salons, comme nouveauté. Et aussi, au retour de la pause, je vais vous donner toute la liste des véhicules qui ont été dévoilés à Los Angeles. Fait que de cette façon-là, s'il y a un véhicule en précis qui vous intéresse, vous allez pouvoir nous appeler, nous poser la question directement sur ce véhicule-là précis, parce que, évidemment, nous ne pourrons pas passer à travers la liste aujourd'hui et ce serait quand même très long. On aurait besoin de deux, trois émissions pour faire le tour parce qu'il y a eu quand même passablement de nouveautés. Alors, pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec, 418-670-9330, ailleurs, 1-866-790-9850 ou encore auto360 à cogecomedia.com. On fait une pause et au retour, on vous parle vraiment du salon et des nouveautés.
Cogeco, Auto 360,
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360, les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Bon, les nouvelles de l'industrie, Marc, on a quand même plusieurs choses à parler au niveau du salon de l'auto de Los Angeles. Je pense que ça vaut la peine de s'y attarder un petit peu. Marc, si tu permets, je vais faire la liste. Parce que si jamais il y a un modèle qui vous accroche, puis vous avez une question précise, vous pourrez me la poser. Alors voilà, parmi les véhicules qui ont été dévoilés, d'abord, Infiniti QX50, puis il y a une primeur mondiale, je vais vous en parler dans un instant. Toyota FTAC, c'est un véhicule concept. Kia Sorento, Nissan Kicks, c'est un petit sport utilitaire. Jeep Wrangler, le tout nouveau Jeep Wrangler. Belle présentation d'ailleurs. BMW, on avait vraiment le goût de jaser, puis pas à peu près. M3, M5, Concept 8, Concept i7, i3, 100% électrique. La i-Vision qui va être la prochaine i5 tant qu'à moi. La i8 version Spider, très intéressante. Mazda 6, qui a été plus populaire que je pensais là-bas à Détroit. Je pense que, hein, Marc, il y avait du monde autour de cette voiture-là.
C'était fou, ça a été long. On a essayé de faire un reportage, il fallait attendre que les gens se tassent pour réussir ne serait-ce qu'à prendre des belles photos, effectivement. Mais, à la décharge, c'est probablement une des rares vraies voitures qui était présentée là. Ben oui, c'était vraiment des utilitaires.
Lincoln Nautilus, c'est quoi ça? Marc va vous en parler tantôt. Lexus RX 350L, LX 470, Mercedes CLS, Mitsubishi Eclipse Cross. Je vais vous parler du véhicule en deux temps dans pas long. Outlander PHEV, Volvo XC40, un de mes coups de cœur, je l'ai bien aimé. Kia Kona, c'est quoi cette affaire-là? Kia Sorento, le Niro branchable. Ça, c'est parmi les véhicules qui ont été présentés. J'en oublie-tu, Marc?
Non, ça fait pas mal le tour. Hein? Il y en a d'autres. On pourrait parler, bien sûr, là, de la Corvette ZR1.
Qui a pas la été version vraiment, décapotable qui est en primeur mondiale. Hein?
Oui, mais a été dévoilée avant, ouais, avant le salon comme tel. Puis c'est la ZR1 de 755 chevaux. Là. Un petit véhicule tout à fait discret qu'on n'entendra pas venir du tout. Du tout.
Parfait pour le marché californien.
Totalement.
OK, on commence avec les modèles. Bon, le QX50, j'ai dit primeur mondial dans ce véhicule-là. Pourquoi c'est une primeur mondiale? Parce que c'est un tout nouveau véhicule de A à Z, qu'on l'a refait de A à Z. C'est un 100% Infiniti. C'est important,
oui,
de le mentionner.
Effectivement.
Ça.
Hein? Oui,
parce
il y a
que le QX30, pour les gens qui ne sont pas au courant, le QX30 est une association avec Mercedes. Et chez Infiniti, on présente avec ce nouveau QX50 non seulement un tout nouveau véhicule avec un nouveau design, mais aussi une nouvelle motorisation à taux de compression variable. Et là, taux de compression variable, on l'appelle le VC Turbo comme motorisation. C'est un 2 litres qui a quand même une très belle performance. Là, on parle d'un moteur qui va développer 268 chevaux et 280 livres de pied couple. C'est quand même assez important comme puissance pour un petit 2 litres.
Mais c'est une perte, par contre, par rapport à ce qu'était le QX50, qui était avant doté, on se rappelle, d'un V6 3.7, qui, là, avait 325 chevaux. Et là, on perd quand même une trentaine, une quarantaine de chevaux presque. Là.
Mais on change aussi la direction du véhicule parce que son allure est plus chic, classe, que sportif comme avant. Donc, on voulait vraiment avoir une différence avec le modèle. Et le taux de variation, le taux de compression variable peut passer de 8 à 1 jusqu'à 14 à 1. Donc, 14 à 1, on se rapproche des moteurs ou des motorisations diesel. Donc, c'est un tout nouveau système. Ici, vous pouvez aller voir là, sur le site d'Infiniti, on le voit très bien, de la façon qu'on s'y prend. Il y a un système qui fait varier la compression. Parce que moi, je me demandais comment est-ce qu'on fait pour faire ça. On ne peut pas agrandir ou réduire là, la chambre de combustion, de compression. Comment est-ce qu'on va faire ça? On ne peut pas allonger le piston. J'avais de la misère à comprendre un peu comment est-ce qu'on faisait au niveau du système. Alors voilà, c'est quand même pas trop compliqué de la façon qu'on s'y prend. Et semble-t-il qu'avec ce système, il va y avoir un peu moins de pièces en mouvement dans le moteur. Donc, on peut de cette façon, lorsque tu n'as pas besoin de puissance, réduire donc le taux de compression et avoir de l'économie de carburant. Mais là, vous dites, c'est quoi l'économie de carburant? Ben, ils ne l'ont pas annoncé.
Mais ça, de toute façon, il faut que ça soit autorisé aussi par l'EPA. Donc, avant que ce soit officiel, ils attendent toujours un peu. Là. C'est tout à fait normal.
Je pense que de la façon qu'ils ont fait le système, ça devrait être fiable. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème avec ce système-là. Et le reste du véhicule, il est très beau. Et on veut aller un peu plus haut de gamme. Je pense qu'on voulait lancer ça avec le QX30. On n'a pas tout à fait réussi. Le QX60, plus ou moins. Le QX50 avec les matériaux, la qualité d'assemblage, la réputation Infiniti, son moteur en primeur mondiale. Je pense que vraiment, on vient d'aller dans la bonne direction. L'autre véhicule que je vais parler avant que tu me parles de Lincoln, Marc, le Nissan Kicks.
Ah, ça, c'est cute, là. Ça, j'ai beaucoup aimé ce petit véhicule-là.
Ben oui. Superbe de beau petit véhicule. Un sport utilitaire. Traction. Il y a des affaires spéciales, par exemple, pas de traction intégrale de disponible. Oui, aussi, pas de boîte manuelle, donc on garde la CVT. Un petit moteur 1.5 qui va développer 120-125 chevaux dans ces eaux-là. Belle formule, beau design. Vraiment, là, on veut offrir un véhicule sous le Qashqai qui va être capable, justement, on pense être capable d'offrir un prix sous les 20 000 $ Donc, moi, il faut que ce soit... Le Qashqai, c'est quoi? C'est 19 998, quelque chose. Fait qu'il faut que ça soit 17-18 000 prix de départ. Beaucoup de technologies montent à bord pour les jeunes, là, dont l'option système Bose. On peut même avoir les haut-parleurs dans le siège directement. Donc, on voit qu'on veut... on veut aller dans le segment des CX-3 et d'autres véhicules de genre-là.
Ce qui est important de mentionner, c'est que d'une part, c'est pas fait pour remplacer le Joke. Le Joke va rester pour le moment, en tout cas. Évidemment, il se vend pas beaucoup, le Joke, mais quand même, il va demeurer
là. Il quitte incessamment, mais il reste dans le reste du monde. L'Amérique du Nord, on l'abandonne.
Oui, nous, on l'abandonne, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un véhicule qui est là pour remplacer le Joke.
Non.
C'est vraiment un créneau différent qu'on a voulu développer. C'est une bonne chose, je pense, pour Nissan qui vraiment se retrouve dans un... C'est parce qu'on est vraiment dans un marché de petits utilitaires et Nissan était un peu absent. Il y avait juste son Joke un peu plus extrême qui faisait pas nécessairement plaisir à tout le monde. Bref, c'est ça. Alors, c'est moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas.
Ben oui. Allez, vas-y avec Lincoln. Le Nautilus.
Ben, en fait, il nous avait déjà présenté quelques jours avant le MKC qu'on a remanié, qu'on a changé un peu la grille et tout. Et là, on arrive avec le Nautilus. Le Nautilus, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est simplement le MKX qui change de nom et qui change d'allure un peu. Le MKX, si vous le situez pas, là, et là, les gens de Lincoln vont m'assassiner, mais c'est ça quand même, c'est le Ford Edge de luxe. Donc, c'est le VUS intermédiaire, qui est pas le plus grand, mais qui est parfait, qui a un beau format. Et on a complètement remanié l'avant. On a mis la nouvelle grille Lincoln, dont Philippe va probablement vous parler tantôt avec le Continental. On a vraiment modifié les phares. On a un petit peu retouché la partie arrière, presque pas l'intérieur. On se retrouve vraiment avec un MKX+, je dirais. Et la particularité, et ça m'a beaucoup surpris, c'est que les gens de marketing nous disaient, il y a 20 ans, Lincoln était la marque numéro 1 des produits de luxe. Aujourd'hui, on est un peu plus loin, mais on se rend compte que la clientèle qui grandit le plus vite chez Lincoln, ce sont les milléniaux. Des gens donc qui s'intéressent à la technologie, on a donc misé beaucoup sur la technologie, notamment là, les systèmes de sécurité embarqués, l'aide au maintien en voie et tout ça. Et on va aussi changer la motorisation un peu là. Dans un 4 cylindres 2 litres de 245 chevaux et un V6 de 2,7 litres, 335 chevaux. Donc, on tombe avec une nouvelle motorisation du côté du Nautilus. Et ça indique aussi, et on nous l'a confirmé, même si on n'avait pas vraiment besoin de confirmation, qu'on est à la veille d'éliminer complètement les MK quelque chose chez Lincoln pour ramener de véritables noms.
Je me suis promené dans le kiosque. D'ailleurs, je l'ai trouvé très, très beau, Nautilus. Ça m'a surpris, le changement de nom. Je dois avouer que je ne l'avais pas vu venir. Ça m'a surpris, mais je me suis promené. Puis l'intérieur du nouveau Navigator, c'est incroyable. Si jamais vous pouvez voir le nouveau. Là, il y avait un genre de bleu poudre là, qui était so-so, mais il reste que l'intérieur, c'est quand même assez spectaculaire de la façon qu'ils ont fait ça. Rapidement, moi, je veux vous parler de BMW parce que c'est les seuls qui ont vraiment parlé de véhicules électriques, de véhicules hybrides, etc. Alors, rapidement, la nouvelle i3S qui est 100% électrique va faire tout près de 200 km 100% électrique. Donc ça, c'est un bon pas en avant. C'est un petit véhicule particulier. Alors, si jamais vous voulez ce genre de véhicule, ça peut être intéressant. La M3, c'est 460 chevaux, la nouvelle M3, donc très belle. La M5, vraiment, là, on dirait pas une voiture super sport, mais il y a de la puissance. C'est 600 chevaux dans la nouvelle M3, c'est le 0-100 en 3.2. Alors, les gens de BM disent, en partant du bureau, là, on peut avoir un peu de plaisir, puis se faire surtout plaisir en sortant du bureau et d'une grosse journée de travail. Alors ça, c'est assez. Et le M3, le 0-100, est à 3.9, c'est quand même pas pire. Concept 8, vraiment un coupé de la série 7, grosso modo, mais avec un design futuriste extraordinaire. On sait que c'est un concept, mais je pense que ça va être intéressant de voir cette nouvelle, ce nouveau coupé. Puis évidemment, là, la classe S, on l'a en coupé, donc il faut aller dans la même direction pour BMW. La 850 avec son 4.4, ça va être à peu près 500 chevaux. Sport utilitaire hybride ou branchable, le nouveau i7 qui va arriver, production 2019, quand même intéressant.
Oui, mais lui, on l'avait présenté à Francfort. Hein. Rappelle-toi
ben oui, c'est on, pas... aurait chauffé, là, on aurait chauffé là, les véhicules concept qu'on a présentés partout à travers le monde. Le i5, le i-Vision, donc on vous en a parlé souvent. On parle de quand même tout près de 600 km d'autonomie dans le véhicule concept. Production annoncée dans un an.
Oui.
Donc en 2019, ça c'est déjà intéressant aussi. Et un prix américain qu'on nous a dit autour de 80 000 $ pour une version qui devrait être autour de 500 km d'autonomie. Donc là, ça veut dire directement dans le modèle 3. Là.
Oui,
on s'en va direct dans le modèle 3. Et la superbe i8 a été présenté en version Roadster. Donc, 369 chevaux au lieu de 365. On a fait quand même là, un petit pas en avant. On a fait un petit pas en avant. Rapidement, hey, la CLS. La CLS là, a été lancée en 2003 chez Mercedes.
Oui.
Ça fait longtemps. Je ne pensais pas que ça faisait aussi longtemps. C'est une berline qui se prend pour un véhicule coupé.
Ouais, il a fait ça, ça la grosse, porte, en fait.
C'était ça la grosse nouveauté. Bon, ouais. Elle revient au goût du jour avec tous les éléments mécaniques ou à peu près de la classe E, parce qu'on sait que c'est une classe E là, remaniée, retravaillée. Sauf que ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a plein d'options qui arrivent avec cette nouvelle classe S et il y a des options que, qu'on peut choisir puis qui va comme l'option détente. On peut avoir là, l'option détente et l'option massage, l'option exercice. Il y a toutes sortes d'options qu'on peut avoir avec ce véhicule-là. Et même si vous choisissez l'option vitalité ou quelque chose du genre, il va utiliser le système de climatisation et il peut même diffuser du parfum. Donc, vous pouvez avoir du parfum dans l'habitacle.
Mais ça, il y en a déjà, hein?
Ben oui, ça, là, c'est ça.
Rappelle-toi que la classe S propose déjà ça. BMW a ça dans sa série 7, entre autres.
Ben oui, fait que là, t'as le parfum. Et là, en plus, il va choisir ta musique directement, va masser le siège, va offrir des... va mettre le volant chauffant, toutes sortes de choses autour de la véhicule, va mettre les lumières d'ambiance également. Alors, il y a toutes sortes de choses. Et il a présenté aussi, évidemment, la nouvelle motorisation, le nouveau 3 litres, là, qui est un genre de système hybride, le e-boost.
Oui.
Quelque chose de genre.
C'est ça.
On a François en ligne et on va continuer évidemment un peu plus tard parce qu'on a énormément à vous parler. Bonjour François.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, ce que j'aimerais avoir de voir dans un salon automobile, puis on l'attend depuis des décennies. On lui avait promis dès les années 60 et 50 pour le début des années 2000. La fameuse voiture volante. Accessible et démocratisé.
Ouais, hein?
Vous avez trouvé que tous les Jetsons, je pense, mon cher François.
Bon, François, exact. Non, pas tant que ça, François, pas tant que ça, parce qu'il y a deux ans, rappelle-toi, Marc, il y a deux ans, M. Bill Ford lui-même nous a présenté sa voiture volante qui est en fait, ça a changé de nom, là. Ça va être un genre de drone. Et on voyait M. Bill Ford qui partait dans le drone de la maison, qui s'en allait au bureau avec son drone, revenait à la maison. Donc, ce genre de truc-là est peut-être pas si loin qu'on pense, mais on va devoir attendre encore quelques années.
Mais il existe déjà des compagnies qui font des voitures volantes. La compagnie Terra Fugia, entre autres, présente déjà depuis 2 ou 3 ans une voiture avec des ailes qui se replient et qui est capable de rouler jusqu'à 100 km/h. La grande nouvelle, c'est qu'il y a 2 semaines, cette compagnie-là a été achetée par Geely. Geely, c'est la compagnie chinoise qui a aussi acheté Volvo et qui est en train de remonter Volvo et ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous. Fait que peut-être finalement que le rêve est pas si loin, que les Chinois vont nous amener la voiture volante plus vite qu'on pense.
Exact, parce qu'il faut que ce soit dans les mêmes prix que les voitures actuelles pour que ça soit démocratisé puis que justement ce mode de transport-là va énormément réduire la congestion au sol. Et vous pouvoir laisser le transport au sol pour les marchandises et autres.
Ben, pourquoi pas? Ben, merci beaucoup, François. Je vous le souhaite le plus rapidement possible et on va vous tenir au courant. Les gens qui veulent nous parler, je vous donne les numéros. 514-790-9850 pour les gens de Montréal, pour les gens de Québec, 418-670-9330. Ailleurs, 1-866-790-9850. Au retour, on parle à Philippe Lagu et après, on prend vos appels. Restez là.
Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, Philippe est avec nous pour nous parler de Lincoln, Philippe.
Alors, je l'ai dit en début d'émission, Daniel, quand j'étais jeune, j'étais très impressionné par la Lincoln Continental. Je suis né en 1964 et la première que j'ai connue est probablement la plus célèbre, celle avec les non moins célèbres portes suicides. C'est un modèle qui est aussi passé à l'histoire pour plusieurs raisons. On pense évidemment à la décapotable dans laquelle prenait place John F. Kennedy quand il s'est fait assassiner à Dallas, mais aussi, sur une note moins tragique, à celle utilisée par le général de Gaulle sur le chemin du roi lors de sa célèbre visite au Québec en 1967, visite un petit peu controversée, mais bon, au moins, c'était pas dramatique. On vous a déjà raconté l'histoire de la marque Lincoln dans cette émission. Aujourd'hui, on va s'attarder à la Continental parce que c'est un modèle qui a une longue et belle histoire. Une histoire qui commence à la fin des années 30, plus précisément en 1939. Parce que c'est Edsel Ford, le fils de Henry Ford, qui demande au designer en chef de la compagnie, Eugene Gregory, de lui dessiner une Lincoln spéciale pour ses vacances en Floride à partir d'un modèle déjà existant. Ça, ça fait partie des privilèges d'être le patron d'une grande... quand même.
Pourquoi pas?
D'un grand constructeur. Alors, Gregory, comme il faut qu'il fasse vite, il va prendre comme base la Lincoln Zephyr, qui est déjà une très belle voiture, et il lui apporte des modifications quand même importantes. Il va rabaisser la carrosserie et il va enlever les marchepieds, ce qui donne une ligne très épurée qui fait contraste avec les voitures américaines de l'époque. Hein. Et c'est d'ailleurs ce style d'inspiration européenne qui va donner son nom à la voiture continentale, comme continent. Et autre particularité de ce modèle, qui va devenir aussi sa signature, c'est la roue de secours qui est placée à l'extérieur du coffre, qui va ensuite être appelée Continental Tire ou Continental Kit. Et Ford va, entre autres, l'utiliser là, pour d'autres modèles à venir, comme la Thunderbird. Donc, Edsel Ford arrive en Floride avec une voiture on ne peut plus exclusive qui a été construite sur mesure pour lui. Une voiture qui est aussi belle que puissante parce qu'il y a un moteur V12 sous son long capot. Et comme il l'avait prévu, sa voiture fait un tabac parmi ses riches amis en Floride. Et Edsel Ford va se dépêcher d'envoyer un télégramme à Détroit en disant qu'il peut facilement en vendre un millier d'exemplaires. Et la production commence aussitôt, hein, pas le temps de niaiser, là. On est loin des délais d'aujourd'hui, là.
Oui, exact.
C'est ça. Alors, les Continentales sont assemblées à la main. Et la production débute tellement vite que les machines à presser la tôle ne sont pas encore prêtes. Ce qui fait que les panneaux de carrosserie des 425 premiers exemplaires sont pressés à la main avec un marteau.
Wow!
Ouais, quand même. Et la plupart des Continentales ben, sont des cabriolets, mais il y a quelques coupés à toit rigide qui vont être produits. Même si les plus rares, le coupé est quand même passé à la postérité plusieurs années plus tard grâce au film « Le Parrain ». Parce que si tu t'en souviens, Daniel, c'est dans une Continentale coupée que Sonny Corleone se fait poivrer. Hein,
puis pas à peu près.
Au poste de péage, ouais, là, dans une des scènes les plus mémorables du film. Là. Alors, l'attaque japonaise contre Pearl Harbor au mois de décembre 1941 va entraîner l'arrêt de la production automobile civile aux États-Unis et le développement de nouveaux modèles va évidemment être freiné. Après la fin de la guerre, la Continental reste donc inchangée là, à quelques détails près. On a entre autres redessiné la calandre et les ailes en cours de route, mais pas plus, parce que sinon, c'est pas mal semblable. Il va y avoir une autre révision pour les modèles d'après-guerre, mais les grandes lignes restent les mêmes. Mais la carrière de la première Continental va s'arrêter une première fois en 1948. Pourquoi? Plusieurs raisons. Edsel Ford est mort 5 ans plus tôt. En 1943, il est mort jeune, ce qui a entraîné une réorganisation du bureau de direction de la compagnie. Et cette réorganisation a entraîné, à son tour, le départ du patron du design, Eugene Gregory. Alors ça, c'est la fin du premier épisode de la Continental. Et à ce jour, la Continental demeure la dernière voiture américaine à moteur V12. Mais le nom Continental, lui, va renaître 8 ans plus tard, pour l'année modèle 1956. Officiellement, ce n'est plus une Lincoln, parce que là, Continental devient une marque à part entière. C'est une nouvelle division de Ford qui se positionne en haut de Lincoln. Et cette nouvelle marque a un seul modèle, qui est la Mark II, qui revendique à l'époque le titre de voiture américaine la plus luxueuse, donc la plus chère, parce qu'une Mark II, en 1956, ça coûte 10 000 $. Et 10 000 $ là, ça, c'est...
c'est de l'argent.
Ben, c'est 5 fois le prix d'une Ford Custom Line là, qui coûte à la même époque un petit peu moins de 2 000 $. C'est pratiquement le prix d'une Rolls-Royce. Si on convertit en dollars d'aujourd'hui, là, c'est à peu près 90 000 $. Alors, le message est clair. on vise une clientèle triée sur le volet. Puis l'objectif va être atteint, hein, parce que les deux plus grandes vedettes américaines de la chanson, Elvis Presley et Frank Sinatra, en achètent une. Le baron de la finance, Nelson Rockefeller, va en acheter une lui aussi, et même le Shah d'Iran. Qui avait, il faut le dire, une belle collection. Hein? Quand on parle de voitures mythiques, lui, son nom revient souvent.
Oui, je comprends.
Quand on parlait de Ferrari, tu t'en souviens?
Ouais.
Alors, au Salon de Los Angeles, d'où tu arrives? Moi, j'y étais il y a 3 ans et j'ai pu voir de près celle d'Elizabeth Taylor, qui lui avait été offerte par les studios Warner et dont la couleur, une espèce de bleu qui tire sur le violet, avait été créée expressément pour s'harmoniser avec ses yeux. Et les yeux d'Elizabeth Taylor, c'était quand même quelque chose, là. Et je vous cacherai pas que j'ai eu des palpitations parce qu'en plus, moi, c'est une de mes voitures préférées. Elle est dans mon top 25 personnel que j'ai publié sur mon site Internet. Faut dire que la Mark II, hein, a pas été dessinée par n'importe qui. Elle fait partie de la liste des chefs-d'œuvre d'un des grands noms du design automobile américain, Gordon Burig, qui a aussi dessiné des immortels comme la Dawsonburg Model J, l'Auburn Speedster, la fameuse Boat Tail, là, et la Cord 810. Alors, la Mark II, à l'époque, détonne dans le paysage automobile américain, là, dans les années 50, avec son design qui est d'une grande pureté, qui contraste avec l'exubérance des Cadillac, Lincoln et Imperial, parce que là, on est dans la folie des immenses ailerons arrière, là, les fameux tail fin. Et on retrouve aussi, en clin d'œil à la première continentale, une bosse sur le coffre arrière pour loger la roue de secours. Mais cette fois, la roue est à l'intérieur du coffre plutôt qu'à l'extérieur. L'équipement de série, ben pour l'époque, il est pléthorique. Hein? La Mark II a des freins assistés, une direction assistée, ça c'est des raretés pour l'époque, des sièges et des vitres électriques. La seule option, c'est la climatisation. Le problème, c'est que Ford va perdre de l'argent sur chaque modèle vendu. Ils vont perdre à peu près 1 000 $ par exemplaire, ce qui est beaucoup hein, à l'époque. Là. Et la Mark II, ben, elle est entièrement construite à la main. C'est une partie du problème. Les contrôles de qualité sont beaucoup plus rigoureux, donc plus chers. Et elle ne partage aucun élément avec les autres modèles du groupe Ford. Alors, la marque continentale va durer seulement 2 ans. Et il y a un petit peu moins de 3 000 exemplaires qui vont être construits, 2996 précisément. Par contre, cette fois-là, le nom Continental ne va pas disparaître. Il va rester au catalogue, mais il va être utilisé de nouveau par Lincoln à partir de 1958. Et là, après avoir essayé de jouer dans les plates-bandes de Rolls-Royce, la Continental devient plutôt la concurrente désignée des berlines de luxe américaines de GM et Chrysler, surtout là, leur haut de gamme, c'est-à-dire la Cadillac Eldorado et l'Impérial. Alors, conséquemment, son prix va diminuer de 40 % pour être ramené à environ 6 000 $, ce qui reste quand même 3 fois plus cher qu'une berline Ford générique, là. Et contrairement aux 2 autres modèles qui ont porté le nom Continental, le design de cette énorme berline est loin de faire l'unanimité. Hein. À l'interne, on la surnomme le monstre aux yeux bridés. Puis quand je dis énorme, j'exagère pas. Là. La Continental est une des plus grosses voitures jamais construites par Ford. Là, il faut dire qu'on est en pleine démesure des années 50. Alors, c'est de la démesure partout, entre autres pour le format des voitures. Cette fois, par contre, on a pris les moyens de rentabiliser la Continental. Alors, la 3e du nom utilise le même châssis monocoque que les autres modèles Lincoln, la Capri et la première. Et en plus, elle est construite sur la même ligne d'assemblage. Alors là, c'est fini. La construction à la main, ça coûtait trop cher.
Ben oui.
Et il faut quand même préciser qu'au sein du groupe Ford, les Lincoln sont les seuls à avoir des carrosseries monocoques. Alors, elles se distinguent quand même. Et en 1959, la 2e année de cette génération-là, va apparaître aussi un nom qui va rester étroitement associé au Continental, la Town Car. La Town Car, ben, c'est une version plus luxueuse, plus exclusive de la Continental. Et une Town Car toute équipée, ben, on revient à pas loin de 10 000 $ là, comme l'ancienne Mark II. Et ceci m'amène à vous parler de la 4e génération qui est la plus célèbre, la plus mythique, et je pèse mes mots quand je dis ça. Et ça, ben Daniel, je vous garde ça pour le prochain bloc.
Oui, j'ai bien hâte d'entendre ça parce que moi, je veux pas voler le punch, mais je l'ai bien aimé, cette nouvelle Lincoln. Et on va dire pourquoi un petit peu plus tard. Merci Philippe.
Au plaisir.
Alors voilà, fin de pause et au retour, promis, on vous parle. Restez là.
Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Nous voilà de retour et je vous donne les numéros de téléphone pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9930, ailleurs 1-866-790-9850, auto360 à cogecomedia.com. On est là pour vous parler, là c'est vrai. Marc, juste avant, le Jeep Wrangler.
Oui, le Jeep Wrangler qui est un véhicule super important. Jeep, c'est quand même la marque la plus connue au monde. Donc évidemment, on s'attendait à beaucoup de ce Wrangler qui est la base même de compagnie. On n'a pas changé le design tant que ça. On a modernisé quelques affaires. On a mis des rondeurs à quelques endroits. On a gardé cependant les phares ronds. On a gardé aussi la grille à sept fentes là, qui est la signature caractéristique de Jeep. Donc ça ne bouge pas. Les grandes nouveautés, ben écoute, on a vraiment patenté, si tu passes l'expression, toutes sortes d'affaires avec le toit. On peut enlever le toit, avoir un toit rigide, un toit d'un bloc, un toit en deux blocs. On a un toit souple électrique qui peut se retirer sous pression d'un doigt jusqu'à 100 km/h. Ça, c'est quand même important.
C'est le même principe que celui de la Fiat 500.
Exactement.
Grosso modo, là. Très bien fait, bien pensé.
Oui, on a le fameux pare-brise qui, comme les vieux Jeep Willys, se penche vers l'avant. Donc, tu peux littéralement t'enlever le pare-brise. Ah, bref, là, on parle d'à peu près 90 façons, là. C'est complètement fou, là. Fait que ça, c'est un volet. Deuxième volet qui est super important, on garde le moteur V6 3.6 qu'on connaît déjà. On ajoute un moteur 4 cylindres. Ça, c'est quand même intéressant parce que c'est un moteur 4 cylindres 2 litres de 270 chevaux. Évidemment, turbo, on s'en doute. Il y aura aussi une particularité parce qu'il dispose d'un système qui s'appelle le e-Torque. En fait, c'est une espèce de système hybride léger là, qui permet d'avoir une batterie qui donne un petit support. Donc, ça s'en vient dans le Wrangler. Un autre moteur diesel 3 litres qui va arriver au cours de 2019. Et pas la surprise, mais disons, ce que tout le monde attendait, mais on savait pas trop si c'était vrai, ben, il y aura en 2020 un Wrangler hybride branchable qui sera capable d'une certaine autonomie électrique. Alors, franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements pour le Wrangler, plus tout le reste, là. On a changé l'intérieur. Tout a été
modifié. Les boîtiers de transfert ont été modifiés aussi.
Oui.
D'ailleurs, tout ce qui existe sur le Wrangler en termes de capacité hors-route, toutes les caractéristiques hors-route ont été améliorées. Les différentiels qui sont davantage découplés. Ça va être un Wrangler où vous allez pouvoir aller encore un petit peu plus loin dans la hors-route.
Moi, j'ai beaucoup aimé la déclaration du président Mike Manley qui, au départ, disait que il y a quelqu'un qui disait qu'un jour, s'il mourait, il voulait se faire enterrer dans un Wrangler parce qu'il n'avait jamais trouvé un trou duquel il pouvait pas sortir.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment drôle.
Alors, je pense que c'est encore plus vrai avec le nouveau Wrangler qui va quand même arriver aussi en version 4 portes, là, la 2 et 4 portes, et toujours avec le Sahara, le Sport et le Rubicon. Donc, on n'a pas changé cette déclinaison-là. On a simplement amélioré la totalité.
On devait rester tout près du modèle actuel parce que c'est un succès indéniable et on a tout simplement amélioré le tout encore. L'intérieur est beaucoup plus moderne également, puis on dit qu'il va être un peu moins bruyant que par le passé, donc on veut qu'il soit un petit peu plus doux, puis on pense que le 4 cylindres va se vendre énormément.
Oui, même si c'est un moteur optionnel, c'est pas le moteur de base. Juste, tu parlais d'amélioration, on peut traverser jusqu'à 30 pouces d'eau, ce qui est quand même pas pire, et on peut remorquer jusqu'à 3500 livres si on ajoute l'option remorquage, qui est très bon.
Mohamed est là. Bonjour, Mohamed.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre émission. Je l'écoute régulièrement. Par contre, c'est la première fois que j'appelle.
Ah, merci. Bienvenue.
Oui. Donc, moi, je voulais avoir de l'information parce que je vais acheter une voiture vers la fin du mois de décembre. Et je regardais un peu les brides. Je sais que la Toyota, peut-être la Honda, elles sont bien, mais je les trouve un peu cher par rapport à mon budget. Et surtout, j'ai vu dernièrement la Kia Niro.
Très bon choix. Kia Niro, moi, je l'ai beaucoup aimé. Elle est agréable. Si l'espace intérieur vous convient, superbe cette Kia Niro. Au niveau du prix, c'est un bon rapport qualité-prix, bien assemblé. Le système hybride et mécanique de la Niro ne me fait pas peur, mais pas du tout. Et on vient de la présenter d'ailleurs en version branchable, 41 km d'autonomie à Los Angeles. On a présenté cette voiture-là. Alors pour moi, je vous dis oui, j'ai aucun problème avec la Niro. Marc, t'es d'accord?
Tout à fait d'accord, ça a été un des coups de cœur l'an passé, sauf que comme Daniel l'a précisé, allez voir l'espace intérieur parce que c'est un petit véhicule, hein. C'est pas quelque chose de très grand, assurez-vous que ça va convenir à vos besoins.
D'accord, je peux me permettre une autre question?
Rapidement.
Oui, en parallèle, je regardais pour si c'est pas les brises pour un véhicule normal et je voyais pour les Hyundai, mais sincèrement, récemment, quelqu'un m'a dit qu'il a eu la Sonata plus l'Elantra, mais il a eu beaucoup de problèmes avec et ça m'a un peu...
Ah, malheureusement, Mohamed, je dois vous laisser là-dessus, mais la Niro va être un bon choix pour vous. Après la pause nouvelle, Philippe, et on va poursuivre les appels.